Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le deuxième café ciné de la 29e édition du Festival Résistance. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est très heureux et heureuse d'accueillir Florence Mehlk, qui était déjà là hier pour la projection de La Traversée. Et aujourd'hui, à 11h, il y aura une projection de plusieurs de ses courts-métrages dans la grande salle. Et pour aujourd'hui, on va plutôt faire un déroulé chronologique selon ses films et on va aborder plusieurs thématiques. Et on aimerait commencer plutôt sur votre formation à l'École nationale supérieure des arts décoratifs en spécialité gravure. On a vu ça et on s'est demandé si vous voulez nous en parler, comment après vous en êtes venu à travailler dans le cinéma.
Alors en fait, oui, c'était en spécialité gravure parce qu'à l'époque, aux Arts Déco, il n'y avait pas de section cinéma d'animation, ça n'existait pas. Il y avait très peu, quand j'ai commencé mes études, il y avait très peu d'écoles qui faisaient de l'animation, qui apprenaient l'animation. Il y avait l'école des Gobelins, mais c'était très disneyien, ce n'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et puis des petites écoles privées à droite à gauche, mais il n'y avait vraiment rien, quoi. Et je pense que l'animation à cette époque-là était plutôt dans un moment où il y avait peu de choses qui se faisaient autour de l'animation. Il y avait eu la période de Paul Grimaud avant, et puis voilà, c'était un peu un trou, même s'il y avait quand même des gens qui travaillaient. Et donc, quand je suis rentrée aux Arts Déco, il n'y avait pas de section animation, et j'ai fait gravure, j'ai fait de la gravure, peinture et gravure, quoi. En fait, j'ai fait. Mais quand je suis rentrée aux Arts Déco, j'avais très envie de faire de l'animation. C'était ça que j'avais envie de faire, quoi. Parce que je connaissais. J'avais vu des films qui me plaisaient beaucoup, qui n'étaient pas les films de Disney, justement, mais des films de Yuri Norstein, des films russes, ou des films de. Tchèques. Voilà. C'était plutôt de côté Est. Et j'ai fait de l'animation 10 ans après être sortie de l'école, à la suite de 2 rencontres. La rencontre avec un ami qui voulait faire de la production et qui m'a dit on n'a qu'à présenter un projet au CNC pour essayer d'avoir les subventions. Et puis un peintre qui s'appelait Robert Lapoujade et qui était à la fois peintre et animateur et qui un jour m'a dit mais si tu as envie de faire de l'animation, prends une caméra et lance-toi, quoi. Voilà, donc c'est une... Alors je suis autodidacte en animation, je ne suis pas autodidacte en peinture, puisque j'ai quand même fait une école pour apprendre à dessiner, etc.
Eh bien, merci. Est-ce que peut-être que vous pouvez nous reparler de l'aventure du premier film, Hammam, qu'on va passer tout à l'heure, en 1991. Et quelle technique vous mettez en place, puisque vous êtes autodidacte dans l'animation, comment ça se passe, quoi, pour un premier film, pour les premiers financements, pour les premiers doutes, j'imagine aussi.
Alors, effectivement, Hammam, ça a été très lié à la rencontre avec ces deux personnes, donc celui qui voulait produire et puis Robert Lapoujade qui m'a dit bah, « prends une caméra et lance-toi ». On a effectivement eu l'aide du CNC pour Hammam et... Robert Lapoujade, j'étais aussi beaucoup influencée par lui parce que c'était quelqu'un qui faisait de la peinture et qui faisait de l'animation directe sous la caméra. Enfin, il a fait plein de façons différentes de faire du cinéma d'animation. Il a fait aussi des marionnettes, etc. Mais il a fait quelques films comme ça en animation directe et moi j'avais trouvé ça formidable. Plus d'autres réalisateurs canadiens, québécois. Et voilà, et en fait, entre le moment où je suis sortie des Arts Déco et puis ce premier film, j'avais fait toute une série de dessins dans les Hammam. Et je me suis inspirée de ces dessins pour construire Hammam qui était... Alors, à l'époque, mon idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose de très pictural. Donc, je ne racontais pas spécialement une histoire. J'avais juste envie de faire comme ça une traversée d'un lieu comme le Hammam. Et puis de montrer un peu tous les différents aspects qu'aurait pu avoir une peinture. Si j'avais voulu faire plein de peintures du Hammam, j'en ai fait parce que j'ai commencé par faire des dessins et des toiles et des gravures. Et puis après, c'était effectivement comment les femmes bougent dans cet endroit, comment en un seul plan, on va pouvoir montrer une vingtaine de tableaux. Il y a une femme qui arrive, elle est à gauche, et puis hop, elle va traverser tout le champ pour passer à droite. Et voilà, et on a un peu tous les aspects dans un seul film de ce qui pourrait être l'objet de plein de toiles et plein de tableaux. C'était un peu l'idée, c'était un peu... Et c'est le film, je pense, le plus pictural que j'ai fait, parce que c'était vraiment issu des peintures que j'avais faites. Et c'était un peu comme si je faisais le portrait d'un lieu.
D'accord, merci beaucoup. Et on va ensuite aussi projeter ce matin chez Razad. Et on s'est questionné un peu sur la place des femmes dans votre travail, puisque Anna, c'est un film avec des femmes, des corps de femmes. Chez Razad aussi, c'est une histoire quand même de femme et un conte d'une femme dont on connaît l'histoire, mais on s'est questionné sur votre envie de représenter les femmes et comment et pourquoi, etc.
Ça me semblait... quand j'ai commencé à faire... Je ne voudrais pas prendre trop de temps, parce que c'est des histoires qui sont toujours très très longues.
On a plein de temps.
Mais il se trouve donc que ma mère était peintre et qu'elle a beaucoup dessiné des corps de femmes et des femmes. Alors ça lie deux choses en fait. Pourquoi j'ai travaillé sur le hammam, ça lie deux choses. Et quand elle était en 1952, à l'époque elle était au Parti communiste, et... on lui demande d'aller faire toute une série de dessins, un reportage dessiné pour dénoncer la colonisation en Algérie. Donc elle part en Algérie avec un carnet à dessins et elle va revenir avec plein de dessins. Et dans ces dessins, elle rencontre plein de gens, et comme c'était une femme, elle peut aller du côté des femmes, parce qu'il y avait un autre peintre qui part avec elle qui s'appelle Boris Tasnitsky et qui lui ira du côté des hommes. Elle va du côté des femmes et elle dessine les femmes dans leur intimité, quoi. Entre autres, elle dessine aussi d'autres choses, mais elle dessine aussi les enfants qui travaillent dans les champs, des choses comme ça, mais voilà. Et après les Arts Déco, elle est réinvitée par les amis qu'elle avait rencontrés en Algérie, et à cette époque-là, il y a leurs enfants qui ont nos âges, et il y a une des jeunes filles qui se marie, donc c'est là qu'on nous amène au hammam pour la première fois. Et voilà, et ce monde très féminin, il m'a vraiment... Enfin, cette façon que les femmes ont d'être entre elles, etc., et ce monde très féminin, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Comment aussi elles peuvent, loin du regard des hommes, avoir une façon d'être avec leur corps qui est complètement différent que quand elles sont justement sous le regard des hommes, voilà. Et donc, quand je suis sortie des Arts Déco, j'ai repris ce thème-là en essayant effectivement, en dessinant ces femmes qui sont jeunes, qui sont vieilles, qui sont minces, qui sont grosses, qui sont pas gênées dans leur intimité parce qu'il y a des hommes qui peuvent les regarder et qui peuvent les juger. Donc voilà, c'était un peu aussi ça que j'avais envie de rendre dans Hammam. Et après, chez Razad, c'était... Une envie de ne pas sortir de ce monde oriental, parce qu'au niveau des couleurs et puis ça m'avait beaucoup plu de dessiner ça. Donc c'était une façon de ne pas sortir du monde oriental. Et puis aussi, comme j'ai beaucoup de goût pour les contes en général, voilà, ça alliait le conte et le monde oriental. Et puis aussi parce que à ce moment-là, il y avait eu un petit entrefilet dans Le Monde qui disait que les frères musulmans brûlaient les exemplaires originaux des Mille et une Nuits. Donc j'avais envie aussi de reconstituer de re-raconter Scheherazade sans l'édulcorer, parce qu'en fait c'est vrai que les Mille et une Nuits, c'est un roman qui est très très où on raconte tout et où on nomme les choses, on nomme un chat un chat, quoi, pour ne pas dire une chatte. Voilà, donc c'était la suite, quoi. C'était la suite. Et puis il se trouve qu'à l'époque, alors ça s'est pas réalisé, et heureusement, parce que je suis pas sûre que j'aurais réussi à faire ça à ce moment-là, en tout cas. Il se trouve qu'à l'époque, la 7, hein, l'enceinte d'Arte, la fin des programmes d'Arte, c'était minuit. Et donc, il y avait une fermeture des programmes à minuit. Et donc, j'avais proposé à Arte, et heureusement, ça ne s'est pas fait, de faire l'ouverture avec, comme chez Razad, qui raconte chaque jour une nouvelle histoire, etc. J'avais proposé à Arte qu'on découpe. Enfin, il y avait une histoire qui s'appelait Les Dames de Bagdad et le Portefeuille. Et j'avais proposé qu'on découpe cette histoire en je ne sais plus combien d'épisodes, en 12 épisodes, pendant un mois. Je crois que c'était ça, c'était pendant un mois. Et on aurait fait ouverture de programme, fermeture de programme avec Scheherazade qui disait « Et demain, vous allez connaître la suite de… » etc. Bon, ça s'est pas fait. C'était un projet un peu ambitieux pour moi qui travaillais toute seule sur mes films.
Merci pour cette réponse. Et on voulait aussi rester dans le thème des femmes, mais cette fois plus avec les différentes collaborations que vous avez eues, que ce soit la co-écriture avec Marie Desplechin. On avait aussi vu que vous aviez co-réalisé Méandre avec Mathilde Philippon et Elodie Boudec.
Oui.
Et aussi du coup collaboré en 96 avec Histoire d'un prince devenu borgne, qui est encore un conte de
millénaire. Ouais, ça c'est. Oui.
Et du coup, ouais, on voulait savoir un peu comment est-ce que c'était vraiment un choix de votre part de travailler principalement avec des femmes, ou ça s'est un peu fait naturellement.
Ce que je voulais rajouter sur Scheherazade, c'était quand même une des plus horribles histoires de féminicide qu'il y a dans les contes pour enfants, quand même. Pourquoi des femmes? Je pense que c'est… Je sais pas. Les sujets que je choisis, je pense que c'était important de parler des femmes, je crois, mais c'est… Est-ce que c'est complètement conscient quand on choisit un sujet, puis qu'on… Je suis pas sûre, mais après que les choses soient plus axées sur les femmes, c'est peut-être parce que c'est ce que je connais le mieux que… Voilà, après le dernier film que j'ai fait, mais je me suis rendu compte que c'était le seul film que j'avais fait vraiment sur un homme, d'ailleurs, avec des corps d'hommes aussi en plus, donc c'est vraiment la première fois que je faisais un film vraiment axé sur l'histoire d'un homme. Oui, c'est des histoires de rencontres, c'est des histoires d'entente. Peut-être que je m'entends mieux, effectivement, quand je travaille. Dans le travail, je m'entends mieux avec les femmes qu'avec les hommes. Enfin, Non, mais dans le travail, hein, c'est pas… Oui, dans le monde du cinéma. Mais ça, c'est dur de généraliser les choses parce que un jour j'ai par exemple pour la traversée, bizarrement ou pas d'ailleurs, je sais pas, mais ce sont principalement, j'ai fait un casting pour choisir à la fois les décoratrices et puis les animatrices, et bizarrement il y a quasiment que des femmes qui se sont présentées, très peu d'hommes en fait qui se sont présentés pour travailler. Alors hasard ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que du coup, c'était pas un hasard s'il y avait plus de femmes dans les gens avec qui j'ai travaillé que d'hommes, puisqu'il y en avait moins qui se présentaient au départ, quoi. Donc je crois que j'ai même fait de la discrimination positive en embauchant pour faire les posings un homme ou deux comme ça, plus impossible pour faire l'animation. Mais voilà, c'était un peu voilà. Après, je ne suis pas sûre que ce soit complètement un hasard. Donc, ensuite, j'avais dit aussi dans une conférence que les hommes me semblaient moins, dans l'animation, moins sensibles à cette technique qui est une technique très intuitive et qui est une technique qui est très risquée, en fait. Parce qu'en fait, on risque de se planter quand on fait ce genre d'animation. On pourra y revenir après. Et donc, j'avais dit ça, que les hommes me semblaient moins tentés par cette animation très intuitive. Et il y a plein de… très bons animateurs qui font des très très beaux films qui m'ont dit non mais c'est pas vrai, nous on n'est pas comme ça, etc., etc. Donc voilà, mais c'est vrai que… Après Marie Desplechin, ça a été une rencontre… J'ai beaucoup travaillé avec Denis Colin qui était un musicien de jazz. Et voilà, j'ai fait des belles rencontres de travail qui sont devenues des relations amicales après. Marie de Plechin, c'est une complice depuis presque mes premiers films, et puis voilà, c'est une complicité que j'ai gardée tout du long.
Ok, merci beaucoup. Moi, je reprends un peu, je suis un peu chronologiquement, puis on va arriver, je pense, sur les questions un peu techniques. On s'est gardé pour la traversée, si vous l'avez vue hier, comme ça on aura aussi les images peut-être mieux en tête. Et du coup, moi, j'avais une petite question encore. Lié à la carrière, c'est le film Au premier dimanche d'août qu'on va projeter tout à l'heure, qui reçoit le César du meilleur court métrage. Et du coup, qu'est-ce que ça change peut-être pour vous à ce moment-là dans la possibilité de faire des films ou pas, ou
rien du tout. Mais alors vraiment rien du tout. Ça n'a strictement rien changé. Moi, j'étais super contente d'avoir. J'étais d'autant plus contente d'avoir ce César du court-métrage que c'était un César du court-métrage. Et qu'à l'époque, on ne séparait pas l'animation et le court-métrage en prise de vue réelle. Et que voilà, donc j'étais très fière d'avoir ça. Mais sinon, ça n'a rien changé. Alors un jour, il y a des gens qui m'ont appelé en me disant « On a vu que vous aviez eu le César du court-métrage. » Et nous, on a un projet pour adapter Le Roi Lion, L'Enfant Lion en animation. Et j'aurais dit, et c'était vraiment pour un long métrage, mais vraiment un film comme beaucoup, enfin voilà, très classique dans sa manière de faire et tout ça. Donc j'aurais dit, écoutez, je suis pas sûre que mon style va correspondre à ce que vous attendez d'une réalisatrice, enfin de moi. Donc je leur ai envoyé, en fait ils n'avaient pas du tout vu mes films, donc je leur ai envoyé Au premier dimanche d'août, et puis ils m'ont envoyé un mot en disant oui, effectivement votre film est très beau, mais c'est pas du tout ce qu'on attend, parce que c'était vraiment là pour le coup, c'était vraiment dans un style disneyien, un film d'animation très très okay. industriel, quoi, dans sa façon de faire, quoi.
Okay.
Et à part ça, ben j'aurais pensé effectivement que d'avoir un César et d'être déjà un peu reconnu dans le milieu de l'animation allait m'aider pour faire mon long métrage, mais ça n'a pas été le cas. Donc je pense que ça m'a vraiment rien rapporté du tout.
Ok. Très bien. On déconstruit des images.
Hein?
On déconstruit des idées reçues.
Je pense que c'est pas. Enfin, ça dépend des films. Hein, et je pense que. Non, je vais pas. Je vais pas être méchante. Je pense que le film qui a été primé cette année au César, en animation, ça va lui permettre effectivement peut-être de faire son prochain long métrage très rapidement. Mais il a un style qui est bien dans les clous, quoi. Voilà, non, c'est pas méchant.
Non, c'est... et donc, plutôt, vous avez parlé du fait que vous aimez les contes, tout ça, et nous, du coup, on va passer Les Oiseaux Blancs et Les Oiseaux Noirs. Et vous avez aussi fait Contes de quartier, Scheherazade, Histoire d'un prince devenu borgne. Vous l'avez d'ailleurs dit qu'ils sont inspirés de différents contes. On voulait savoir d'où vient un peu cette curiosité des contes. Qu'est-ce qui vous a... un peu votre imaginaire, et nous, en tout cas, en voyant la traversée, on s'est dit qu'il y avait quelque chose aussi de question d'aspect, enfin, un peu spirituel ou un peu vaporeux, enfin, ouais, de l'univers du conte, du rêve, de tout ça. On voulait un peu en savoir plus sur votre univers. Question très vague. Oui.
Ben c'est pas facile en fait, parce que j'ai toujours lu des contes, et je trouve que l'image d'inner du conte, je trouve que c'est une bonne façon de parler y compris de nos époques, quoi. C'est-à-dire que dans les contes on retrouve beaucoup de choses qui très métaphoriques, qui effectivement nous permettent de rentrer à travers les contes dans des histoires qui sont des histoires tragiques ou des histoires politiques ou même des histoires intimes, et que voilà, le conte permet ça de façon peut-être plus détournée mais plus assez efficace aussi en général, voilà. Ça permet aussi de pas fermer les yeux sur les choses, quoi, de les garder ouverts, alors que des fois on a juste envie de pas savoir ou des choses comme ça, quoi, et que le conte nous permet effectivement ça, mais je sais pas exactement. Et puis l'imaginaire du conte aussi, Après, c'est pas les contes que j'utilise, c'est pas des contes, c'est pas forcément le fantastique qui va m'attirer, c'est plutôt des contes qui nous font revenir dans le réel.
et oui, du coup, c'est vrai que ça vient un peu d'origines différentes, du coup, plutôt orientales, ou les oiseaux blancs, les oiseaux noirs, on a vu
c'est africain.
Plutôt africain, ouais.
Mais les contes qu'on a utilisés pour la traversée, c'est plutôt les contes occidentaux. Mais quand j'étais jeune, je lisais contes et légendes des pays du monde entier. Et puis voilà, je me suis vachement nourrie de ces histoires-là depuis toujours. Et puis pareil sur la mythologie, j'aime beaucoup les contes mythologiques, enfin, la mythologie. Donc voilà, je pense que c'est... Ça s'accorde bien de nourrir à la fois son imaginaire des contes et de la réalité. C'est un peu le cas de la traversée, voilà. Ou c'est le cas au premier dimanche d'août, où effectivement, enfin, je crois que j'aime bien ça, j'aime bien passer de quelque chose qui est très réaliste. Je fais des croquis, j'aime pas travailler avec des photos parce que je trouve que le dessin nous permet déjà de choisir ce qui nous intéresse dans une image, alors que la photo, elle nous montre tout. Donc aussi bien pour Amam que pour au premier dimanche d'août, qui sont tous les deux des portraits de lieux, j'ai fait beaucoup de croquis avant, et le croquis, ça fait déjà une première sélection de ce qui nous reste en tête, et puis après le film fait une deuxième sélection, c'est-à-dire qu'on laisse revenir les images qu'on a déjà dessinées, et puis je choisissais parmi celles-là, et puis après j'aime bien que, aussi bien dans Amam que dans au premier dimanche d'août, il y a une espèce de liaison qui se fasse avec un monde qui est un monde plus imaginaire, même si c'est au départ presque un reportage dessiné mis en mouvement, mais tout d'un coup le film part ailleurs dans quelque chose de plus abstrait, dans quelque chose, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien mélanger. Et la traversée, c'est ça aussi, quoi, c'est se laisser à la fois se laisser imprégner par le réel, et puis avec toute cette arrière-plan qu'on connaît, enfin, qui nous revient sur d'autres contes qui nous font rebondir sur le réel qui est en train de se dérouler sous nos yeux, quoi.
Merci beaucoup, et du coup par rapport à la traversée, on y arrive, le film qui a été multiprimé. Moi j'ai beaucoup aimé ce que vous nous avez raconté hier à propos du carnet à dessin de votre mère dont vous vous inspirez, ça fait partie des inspirations. Votre mère qui était peintre, donc, dans Amam aussi, pour raconter tout à l'heure, et pour la traversée, vous récupérez ce qu'elle vous a donné comme dessin pour retravailler en plus de tout l'imaginaire. Est-ce que vous pouvez le raconter pour les personnes qui n'étaient pas là hier, parce que c'était trop bien.
Oui, donc ma mère dessinait, elle a commencé à dessiner vers 14-15 ans, mais vraiment très jeune, et elle dessinait très très bien, et elle a dessiné entre 1930, enfin, elle faisait des dessins de sa famille, de ses amis, pas forcément des dessins très dramatiques pendant la guerre, parce que c'était, voilà, elle était... Mais elle faisait des dessins des gens qu'elle rencontrait sur la route, des paysages, etc. Et en fait, pour faire la traversée, ça raconte aussi l'histoire d'une jeune fille qui est passionnée par le dessin et qui veut faire de la peinture son métier. Donc c'est quelque part, c'est aussi l'histoire de ma mère, pas exactement, mais quand même là-dessus beaucoup. Et donc j'ai choisi dans tous les carnets enfin pas dans tous les carnets, parce qu'on n'a même pas regardé tous ces carnets, mais j'ai choisi dans les carnets de ma mère des dessins qui allait raconter la fausse, enfin, des vrais dessins qui allaient raconter la fausse histoire de Kenna. Et donc je me suis inspirée de ces portraits de famille pour construire les personnages du film et pour faire les personnages du film. Et ensuite j'ai un tout petit peu retouché les dessins, enfin pas les vrais dessins de ma mère, mais des photocopies des dessins de ma mère, de façon à ce que les personnages de ma mère ressemblent aux personnages que j'avais créés pour le film. Donc il y avait une espèce d'aller-retour comme ça entre les dessins de ma mère et puis les dessins de... Et puis l'histoire de Kiona. Donc effectivement, Kiona, ce qu'elle ouvre en premier, c'est le carnet à dessin reconstitué voilà, un faux carnet fait de vrais dessins pour raconter une fausse histoire faite de plein de petites histoires vraies. Voilà, donc c'était un peu et le premier plan, là aussi, c'est ce qu'on a essayé de faire quand on a pensé à au plan du générique, c'était de faire l'atelier, le faux atelier de Mireille Muhail avec ses vraies toiles. Mais en même temps, alors c'était drôle parce qu'en fait, l'image, si on la regarde, elle est fausse et vraie parce qu'on a fait des trompe-l'œil sur les murs pour faire les meubles. Donc certains meubles sont vrais et la moitié est vraie et l'autre moitié est faite en trompe-l'œil sur le mur. Et puis quand on arrive à la fenêtre qui est en trompe-l'œil, ben, y a la pie qui s'envole et qui va annoncer la suite du film. Alors on s'est un peu amusé sur le générique de début. Je peux raconter pourquoi je ne m'entends pas toujours avec les hommes sur un tournage. Il y en a plein avec qui je m'entends, hein, je tiens à souligner. Mais quand on a fait ce faux décor, il y avait toute une équipe d'un chef opérateur qui est venu, qui était extrêmement désagréable, qui savait tout sur tout et qui ne voulait absolument pas nous écouter et qui voulait absolument faire... Alors, mon film, c'était un film peint, quoi. Donc, moi, je voulais pas qu'il y ait de mouvement relatif de caméra. Je voulais pas qu'on sente justement. Je voulais que l'image soit le plus aplatie possible. Et ça, c'est parce que tout le reste du film était complètement aplati. Donc je voulais vraiment pas de mouvement de caméra. Donc il arrive. On avait mis des chevalets et on voulait que la caméra soit le plus. Enfin, pas de profondeur de champ pour pas avoir des plans nets et des plans flous. Et surtout pas avoir de mouvement relatif avec les premiers plans qui bougent pas de la même façon que. Voilà. Donc lui, c'était pas son idée du cinéma, il voulait pas m'écouter, et donc il a commencé par déplacer un chevalet qu'on avait mis pour qu'effectivement, grâce à ce chevalet, on puisse voir les mouvements relatifs. Alors je lui dis non, on laisse le chevalet à sa place, moi je veux pas de mouvement relatif, je veux pas de profondeur de champ, je veux que l'image soit le plus aplatie possible, etc. Et à un moment, je sais pas pourquoi, il y avait un trompe-l'œil. Donc il y avait le meuble qui était dessiné, enfin qui était vrai, et puis ici il y avait le trompe-l'œil, mais ça se voyait que c'était de la peinture, hein, vous avez vu le film, on voit que c'est pas un vrai meuble. Et donc il y avait le trompe-l'œil avec des petites boîtes, des trucs, des machins qu'on avait peint sur le mur. Et puis je sais pas pourquoi je lui demande de faire quelque chose, et il me dit « Ah ben non, c'est pas possible comme c'est là, il faut qu'on bouge le meuble ». Je lui dis, bon, ben, allons donc bouger le meuble. Donc, il s'approche du meuble en question. Et là, il voit que c'est de la peinture sur le mur. Il dit, ah ouais, mais bon, ben, c'est pas grave. Il faut quand même qu'on bouge un peu. Donc, il a bougé une partie du meuble, mais genre de 5 mm, parce que sinon, ça se serait vu. Il m'a dit, bon, ben, maintenant, on va faire votre plan, quoi. Voilà. Donc, bon. Ce n'est pas une généralité, hein. C'était un con, quoi.
C'est une super histoire, j'adore raconter des histoires comme ça, moi. Moi, je serais contente qu'on revienne peut-être un peu plus sur la technique. On en a déjà un peu parlé hier, suite à la projection, mais moi, ça m'a un peu passionnée, cette histoire de couleurs primaire qu'il fallait pas mélanger et comment vous utilisiez les différentes plaques de verre et les différentes couches, puisque en tout cas dans la traversée j'étais frappée par l'utilisation des couleurs et par les différentes saisons, les différents temps qui ont vraiment leur couleur à elles, ou par le passage dans la mer où c'est vraiment un jeu d'aplats de couleurs pour faire sentir les vagues. Et moi, je me suis vraiment posé cette question des couleurs et comment vous les travaillez. Ravie d'en savoir encore plus.
La scène des oiseaux aussi, qui était très colorée, qui
s'échappe de la volière. Alors en fait, dès le début, quand on a commencé à travailler sur le film, enfin sur le scénario avec Marie, on s'était dit qu'il fallait donner la notion du temps qui s'écoulait. D'ailleurs, les enfants vieillissent aussi au fur et à mesure du film. Et le temps qui s'écoulait, l'idée c'était effectivement d'avoir des saisons qui soient, des couleurs qui soient. En fait, on a travaillé par chapitre, peut-être parce que Marie est écrivaine et que moi j'avais fait que des courts-métrages, donc c'était plus facile d'aborder ce film avec des six chapitres différents les uns des autres, en fait, presque. Et comme je savais qu'il fallait partager le travail, c'était aussi plus facile pour partager le travail de se dire, voilà, il y aura peut-être des styles un petit peu différents pour chaque chapitre, mais il y aura quand même la continuité. Mais la couleur, donc on a tout de suite imaginé des chapitres, et chaque chapitre avait une couleur différente et une saison différente pour faire effectivement une année. C'est, le film se déroule sur presque une année et demie. Donc on part au printemps, automne, hiver, printemps à nouveau et été à nouveau, quoi. Donc c'est sur cinq. Et du coup, quand le scénario a été à peu près écrit, j'ai pris un rouleau de comment ça s'appelle de caisse de un rouleau de caisse. Oui, de caisse pour compter là, enfin les rouleaux des.
Non.
Pour les petits rouleaux qu'on met dans les dans pour faire les tickets de caisse.
Ouais.
C'est un rouleau, voilà, c'est des rouleaux, des grands rouleaux, quoi. Et donc sur ce rouleau, j'ai dessiné très rapidement, presque pas en dessin automatique, mais presque quand même, toute l'histoire avec les moments les plus importants de l'histoire, mais assez abstrait. Et donc à chaque fois, il y avait justement les couleurs différentes qui étaient sur ce rouleau-là. Et ensuite. À faire les décors aux décoratrices, on avait ce rouleau qui nous servait un peu de guide, et puis on avait fait aussi une palette de couleurs pour chaque épisode, et donc on devait rester à peu près dans cette palette de couleurs, donc des verts très tendres pour le premier, voilà, et ça suivait les saisons avec et en plus chaque couleur correspondait aussi à une couleur de ce qui se passait à ce moment-là dans le film. Ça aussi, ça nous a un peu aidé à construire l'histoire, parce qu'au début, c'est le départ d'un pays, du pays de l'enfance, quoi, voilà. Ensuite, on arrivait dans la ville qui était... c'était l'été, donc c'était des couleurs orangées, c'était un peu l'Italie, on s'inspirait un peu de l'Italie. Et puis après, on avait les couleurs très rouges chez les ogres, couleur sang. Ensuite les couleurs, enfin ensuite le moment calme avec la vieille dame, c'était dans le blanc et c'était l'hiver, et voilà, donc on a construit aussi l'histoire à partir des couleurs aussi, enfin en pensant aux couleurs et aux saisons. Ensuite je pense que chaque peintre après voilà, ça c'était déjà une première réponse. Ensuite je pense que chaque peintre a un peu sa palette, donc les couleurs assez saturées, assez vives, ça fait partie de ma palette de couleurs, donc c'est celle que j'utilise de façon, voilà, en tirant vers ce qui est ma palette. Et l'autre question après, voilà. Et puis après, effectivement, je pense que la couleur en soi, que j'utilise la couleur pour ce qu'elle a comme force symbolique aussi. Dans chez Razad, c'était pareil avec le charriard qui est tout rouge, etc. Enfin voilà, c'était aussi très.
Il y a une violence.
Dans la couleur. Oui. Ouais. Symbolique avec sa violence, sa douceur éventuellement, etc. Et puis après, il y avait aussi une autre chose qui m'avait guidée, c'est que pour moi, en tout cas pour la traversée, c'était un film de souvenirs, et que pour moi, les souvenirs, c'était pas des couleurs qui s'effaçaient au fur et à mesure qu'on vieillit. Et qui m'aurait fait peut-être utile. Enfin voilà, c'était pas des couleurs pastel qui commencent à se. Au contraire, j'ai l'impression que. Moi j'avais l'impression, en tout cas, c'était mon idée à moi, c'était que les souvenirs qu'on a, ils gomment le superflu et puis ils gardent l'essentiel, y compris l'essentiel des couleurs. Et que si je me souviens d'un jour à la mer. Je vais me souvenir d'un jour avec un ciel très bleu ou un ciel très noir si c'est un ciel d'orage, mais voilà, que les nuances au contraire vont s'estomper pour garder la force de la couleur et la force des souvenirs qu'elle était plutôt là-dedans. Mais c'est très personnel aussi, je pense.
Merci. Après, moi j'avais une petite question avant de vous donner la parole si vous avez d'autres questions aussi. Très très technique. Mais parce que j'avais cette question de superposition.
Oui. J'ai pas répondu à ça.
Non, mais pas de souci. J'ai posé plein de questions en même temps, c'est aussi mon problème. Au tout début du film, il y a Kiona et Adriel qui passent derrière un arbre.
Et comme vous disiez, les décors étaient déjà prêts, et ensuite on fait le mouvement des personnages, et moi je me suis dit, ah mais là elle passe derrière l'arbre, donc l'arbre c'était pas un décor tout fait. Enfin, je me suis posé la question de comment vous mettiez le mouvement au milieu du décor, comment vous fonctionnez avec les différentes couches, en tout cas ça m'a un peu questionnée.
Oui, alors pour ceux qui n'étaient pas là, il y a plusieurs niveaux de vitres, donc sur le premier niveau on met le décor, il y a deux autres niveaux qui servent non pas à faire c'est pas des niveaux qui servent pour mettre les personnages, le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan. Le décor il est sur le troisième plan évidemment, mais les deux autres, ceux qui servent à faire bouger les personnages, ils sont en fait plus pour une séparation de couleurs, c'est-à-dire que les blancs sont sur un niveau et les noirs, enfin les blancs et les couleurs claires sont sur un niveau et les noirs et les couleurs foncées sont sur l'autre niveau, pour pas trop mélanger les couleurs quand on travaille, parce que quand on mélange les couleurs ça se salit très vite, surtout si on a du noir et du blanc, du rouge et du bleu, etc. Donc voilà, donc ça c'était pour l'animation. Mais après, de temps en temps, on pouvait rabaisser une quatrième vitre qui nous permettait de faire par contre effectivement un premier plan. Voilà, donc le premier plan, on pouvait faire passer un personnage en très très gros plan éventuellement qui aurait tout effacé sur son passage si on l'avait fait passer sur les niveaux en dessous. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais voilà. Et on pouvait aussi soit préparer un arbre en décor sur un cellulo, c'est-à-dire un film transparent, soit effectivement redessiner un arbre sur le quatrième niveau. Et puis quand même en animation on a ce qu'on appelle le compositing, c'est-à-dire que quand on a des images on peut maintenant, c'est un logiciel de trucage film et animation aussi, et on peut éventuellement rajouter des éléments quand c'est facile comme un arbre par exemple, on peut rajouter des éléments par ordinateur aussi. On essayait de faire tout en une seule fois et de ne pas trop recourir au compositing, mais c'est vrai que de temps en temps c'était beaucoup plus simple. Voilà.
Moi j'ai juste une question, vu que là c'était votre premier long métrage, est-ce que quand pour les autres courts métrages vous travaillez plutôt, enfin comment après, les équipes, comment ça s'est passé, est-ce que du coup c'est des équipes plus grandes ou c'est quand même...
Ah oui. Ouais. Mais en fait, presque tous les courts-métrages que j'ai faits, je les ai faits seuls, okay. Ou presque seuls. J'ai eu de temps en temps des assistantes, enfin voilà, pour l'animation. Il y en a beaucoup que j'ai écrit aussi avec Marie Desplechin. Et puis après, effectivement, une fois que les images sont faites, il y a une post-production où on partage, enfin voilà, comme pour un film en prise de vue réelle. Et là, effectivement, c'était obligatoire, parce que les courts-métrages, ils prennent à peu près 2 ans à faire, donc c'était faire un long-métrage, c'était vraiment obligatoire de passer par une équipe. Donc il a fallu adapter mon travail très personnel à un travail en équipe.
Pourquoi passe 2 ans à s'exprimer avec des trucs, alors que la nouvelle technologie vous permet de faire 10 plans, 20 plans, de faire bouger les personnages derrière l'arbre, etc. Donc qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi ces choix, quoi ?
Non, mais d'abord c'est pas vrai. L'animation c'est toujours long, même quand c'est avec de la 3D, même quand c'est avec des... Enfin, ce qui diminue le temps de travail en animation quand on utilise des ordinateurs, etc., c'est pas tant... En fait, c'est qu'il y a plein de gens qui peuvent travailler. On peut monter des grosses, grosses équipes, c'est ce que je disais un peu hier, très hiérarchisées, et il y a plein de gens qui peuvent travailler sur le même plan. Donc en fait, on réduit le temps qu'on met à faire un plan en augmentant les gens qui travaillent dessus. Mais ma technique à moi... que je fais seule, elle est relativement rapide, parce que quand je passe plus de temps peut-être à faire un plan, mais je suis toute seule à le faire en même temps. Puis des fois je passe même pas plus de temps à faire un plan, je vais presque aussi vite que que toute une équipe. Et puis, pour qu'on continue à... Mais parce que j'aime la lenteur, en fait. Je pense qu'il y a, il y a un monde qui s'accélère énormément et que... Et qu'il y, y a peut-être un côté de défi de dire, ben non, on peut faire, enfin voilà, on peut continuer à faire des choses qui demandent du temps et qui n'auront pas le même résultat que des choses qui ont été faites vite. Après, j'ai encore plein de réponses là-dessus, parce que je quand même, sur le temps, la vitesse et tout ça, c'est... ouais, c'est vrai, en moyenne, on fait 2 secondes par jour en animation, c'est rien, quoi. Dans les films qui sont beaucoup plus... ils font 8 secondes. Ils font... C'est pas... Voilà. Bon, ça... Pour quelqu'un qui travaille, ça multiplie quand même par 4 le temps de travail quand on est tout seul. Mais voilà. Et puis en plus, je pense que la façon de... Enfin, on raconte pas les choses de la même façon avec de la peinture ou avec... voilà, avec ce... Il y a quelque chose qui est amené par la matière, qui est amené par le travail qu'on sent et qu'on voit aussi quand on regarde le film. On sent la main, on sent la personne qui est derrière. Ça introduit des accidents aussi qui existent de moins en moins dans les films d'animation plus traditionnels. Il n'y a plus d'accidents, alors que là il y a encore des accidents dont on prouve un. Oh ben, un accident, c'est je sais pas, c'est une tache de peinture qu'on n'a pas voulu et qu'on va transformer en autre chose parce que qu'il y a des... Voilà, c'est pas parfait. Oui, l'accident, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est l'imperfection, en fait, qu'on a tendance à voilà, les méthodes nouvelles d'animation font qu'il n'y a plus d'imperfection dans les films, mais ça manque. Moi, ça me manque quand il n'y a pas d'imperfection. Voilà. J'ai d'autres réponses encore, mais bon.
Et nous, on a encore des tonnes de questions, mais il est déjà moins quart. Donc si vous avez des questions, ouais, presque moins 10, si vous avez des questions, venez récupérer le micro. Hop, yeah.
Donc, du coup, vous avez déjà un petit peu répondu à la question, mais je la pose quand même pour voir si vous avez effectivement d'autres choses à dire. Parce que vous avez dit que vous aviez encore d'autres réponses. Est-ce que vous pensez justement, moi je le pense, qu'il y a, de toute façon, il y a quand même un goût des gens pour quelque chose qui est fait à la main, justement. Je pense aussi au stop motion, parce que je... Mais c'est pas forcément du stop motion, en fait, j'ai pas dit...
Ah si.
C'est aussi du stop, je sais pas, j'ai pas toutes les spécifications en tête, mais...
Oui.
Il y a pas forcément un goût des gens, enfin, toujours pour ce côté un peu bricolé, un peu fait à la main, qu'on retrouve pas dans les grandes productions.
Je suis pas sûre. Je veux espérer que oui, qu'il y a encore un goût pour les choses faites à la main, mais en fait oui, sauf que moi, je l'ai déjà raconté, mais j'ai quand même eu beaucoup de mal à monter le film financièrement. Et le fait que ce soit fait à la main, le fait qu'il n'y ait pas... Enfin, fait à la main. Le fait qu'il n'y ait pas de contrôle, parce qu'il n'y a pas beaucoup... On ne peut pas beaucoup contrôler ce qu'on fait. Il n'y a pas beaucoup de contrôle. On ne peut pas tellement revenir en arrière sur ce qu'on fait. Donc, il y a quelque chose qui est un peu... Voilà, on avance, on fait le film, on avance. Et puis, il y a très peu de possibilités de revenir dessus. J'ai jamais travaillé pour la pub, par exemple, c'est impossible, parce qu'ils veulent toujours changer les couleurs au dernier moment, etc. etc. Voilà, il faut qu'il y ait un contrôle sur l'image. Et là, des fois, ça part, et puis le seul contrôle qu'il y a, c'est moi, et encore. Mais après, j'ai eu des super bonnes surprises, parce que je montre beaucoup le film, il a été pris dans le dispositif lycéen au cinéma. Donc je le montre beaucoup à des lycéens, mais aussi des fois à des collégiens qui n'ont pas du tout l'habitude de ce genre d'image, mais vraiment pas du tout. Et en fait, quand ils voient le film, alors au départ, les images, ça les étonne, quoi. Ils sont là et disent non, mais c'est quoi ce truc ? Pour eux, il y a quelque chose de mal dessiné dans le. C'est pas ça, ça ressemble pas à la réalité complètement. Donc c'est ça, voilà. Et puis après, ils rentrent dans le film et puis ils sortent. En général, ils sortent complètement. Conquis, quoi. On disait, ah, mais on savait pas qu'on pouvait faire des films comme ça, etc., etc. Et voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a une habitude. Ces films-là, ils sont appréciés, mais je pense que c'est, voilà, c'est aussi, ça fait aussi partie des choses que j'ai envie de montrer, que pour répondre à la question avant, mais c'est aussi l'envie de montrer que c'est possible de faire ce genre de film, qu'on n'est pas obligé de rentrer dans un moule de film pour enfants. C'est pas un film pour enfants, c'est pas... Mais après, au niveau du public, c'est super difficile. Le film n'a pas eu de succès public. Non ? Non, il a été dans les festivals, comme les courts-métrages, quoi, en fait, mais il continue à tourner dans les courts-métrages, dans les festivals, pardon, et je suis très contente qu'il continue, merci, la résistance, de continuer à montrer des films. C'est aussi une forme de résistance, hein, de montrer des films qui ne sont pas dans les clous.
Une question.
Alors,
je crois que vous avez dit que vous aviez des élèves. Du coup, je me demandais si vous enseignez. Enfin, je me dis, vous avez un style tellement personnel. Comment vous enseignez ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, je sais pas, former une jeune génération ? Je pense aussi que toutes les décoratrices et animatrices qui ont travaillé sur la traversée, vous leur avez transmis beaucoup. Comment vous envisagez ça, l'animation en France, assez dynamique, du fait des étoiles, et comment vous voyez.
Je voudrais revenir sur ce que j'ai dit, parce qu'effectivement, souligner que l'animation française est très intéressante, parce qu'effectivement, il y a plein de réalisateurs qui font des films qui sont effectivement pas dans l'industrie du cinéma d'animation habituel, comme Sébastien Lodenbach, comme celui qui a fait les Italiens, Interdit aux chiens et aux Italiens, voilà, des films qui sont vraiment des films qui sont pas, qui sont, voilà. Donc c'est vraiment intéressant, l'animation française en ce moment, même si le secteur est en difficulté. Mais oui, j'ai enseigné aux arts décoratifs l'animation. Et puis aussi à la Poudrière à Valence. Je fais régulièrement des stages d'une semaine à peu près à Valence. Il y a des tas de... Alors, effectivement, les arts décoratifs, c'est pas une façon de faire de l'animation... Enfin, c'est une façon de faire de l'animation qui est très axée sur les films d'auteur. Qu'est-ce qu'on transmet ? Il y a Romane qui est là, qui a fait un mémoire sur la transmission. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une école d'animation ? Enfin, il n'y a pas, voilà, qui serait une animation en peinture ou en animation directe sous la caméra. Mais il y a plein de gens qui ont, je pense qu'il y a plein de gens qui ont été influencés par mon travail, quoi. Voilà. Que j'ai eu comme élève éventuellement. Là, il y a eu pas mal d'animatrices qui sont venues travailler, des décoratrices et des animatrices qui ont été mes élèves, il y a vraiment plein de nouveaux réalisateurs et réalisatrices qui font des très très beaux films, très beaux courts-métrages en ce moment, effectivement, plus ou moins avec de la peinture animée ou en tout cas des techniques d'animation très picturales ou très, voilà, avec un univers graphique très intéressant. Quelques-unes qui ont fait des films après avoir fait la traversée, qui ont fait leur propre film, leur propre court-métrage après être passé par la traversée, avec effectivement de temps en temps une influence revendiquée, quoi, en disant. Merci à Florence Bail. Voilà, mais j'en suis vachement. Oui, j'en suis contente. C'est vrai que. Moi, j'ai eu de la... Enfin, c'est de plus en plus difficile, mais en même temps, il y a de plus en plus de monde qui travaille. Moi, enfin, c'est ce que je disais un peu quand je suis arrivée dans l'animation. J'ai eu la chance, peut-être aussi, d'être un peu dans un creux d'animation. C'est-à-dire que j'arrivais avec quelque chose, enfin, pas tout à fait courant, mais il y a plein de... Je me revendique, j'ai plein de pères, moi aussi, dans le... Et une sœur, Caroline Leaf. Enfin voilà, il y a plein de gens qui m'ont vachement inspirée. Des grandes sœurs, des pères, des grands-pères.
Peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez des projets en cours ou est-ce que vous avez des projets à développer, peut-être courts, longs?
Alors les longs métrages, non, j'arrête. J'en ai fait un et je suis trop vieille maintenant pour en faire un deuxième. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais regarde quelqu'un comme la Guilloni qui fait encore un film 80 et quelques et tout ça, et, mais non, j'ai... Voilà, peut-être que les femmes se fatiguent plus vite que les hommes pour, parce qu'elles ont plus travaillé, enfin voilà, on a des doubles métiers, donc c'est déjà assez difficile de concilier les enfants et tout ça, et faire des films, c'est énorme, quoi. Et voilà, maintenant je suis fatiguée, j'ai envie de me reposer. Mais sinon, oui, j'ai un projet de... Ah non, t'es là, t'as changé. J'ai un projet sur un film à Le 4, qui est une plage pas loin d'ici. Un jour devant à Le 4. Et c'est un film... Ça rejoint un petit peu le début de la... le film sur... J'avais fait le film sur le bal, ensuite le film sur la ville, Comte de quartier. Et donc là, c'est un film sur la plage. En fait, j'avais envie de faire ça aussi, de faire un film sur la plage. Et sur une famille à la plage qui est confrontée au vent qui se lève. Voilà. Avec juste un petit message écologique à la fin, quand même, histoire de... et puis après, là j'ai travaillé, cette année j'ai travaillé sur un projet d'exposition pour 2026, c'est des tableaux animés sur l'écran d'épingle d'Alexeïev. Alors la plupart des gens ne savent pas ce qu'est l'écran d'épingle d'Alexeïev, mais Alexeïev était un graveur, qui est en 1930, qui a inventé un instrument pour faire de l'animation qui ressemble à de la gravure. Donc en fait, c'est plein d'épingles qui sont piquées dans un écran. Il y a 300 000 épingles sur un écran qui est à peu près grand comme ça. Chaque épingle est piquée dans un tube de caoutchouc et dépasse de 4 mm du tube de caoutchouc. Et quand on pousse les épingles par l'arrière comme ça, on pousse les épingles vers soi, donc ça dépasse de 4 mm. Il y a une lumière à 45 degrés qui fait qu'il y a une ombre sur l'écran, qui se projette sur l'écran, et ça fait un noir très noir. Et quand on repousse tout doucement les épingles vers l'arrière, les 5 mm disparaissent, on n'a plus que les points blancs des tubes de caoutchouc, et l'ombre diminue progressivement, l'ombre projetée. Et on fait de l'animation en poussant et en repoussant ces épingles sur l'écran. Voilà, c'est très très beau. C'est vraiment très très beau. Mais là, j'avais pas envie de raconter une histoire avec cette technique, qui est quand même aussi une technique qui est plutôt difficile. Vous allez me demander pourquoi. Mais j'avais envie de faire des tableaux, et ça sera l'objet d'une installation au FRAC Picardie. Voilà, c'est une commande du FRAC Picardie que j'aurais proposé de faire ça, et puis ils ont accepté cette commande. Donc ça fera l'objet d'une exposition en 2026. Donc voilà, j'ai ces deux projets et quelque chose qui me poursuit depuis maintenant pas mal d'années. Depuis la mort de ma mère, c'est de mettre un peu d'ordre dans l'héritage énorme qu'elle nous a de peinture, de dessin, de carnet de dessin qu'elle nous a laissé, et puis peut-être faire aussi quelque chose sur sa vraie histoire après avoir raconté sa fausse histoire. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.